rattraper son retard en termes de niveau de vie. Tout cela et un certain nombre d'autres facteurs indiquent que les taux de croissance et d'accumulation de capital sont déjà en train de progresser.
Radio G, 101.5 FM.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Bonjour Karine.
Bonjour Sophie. Et oui, nous sommes les apicultrices qui vous accompagneront tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires. Si vous souhaitez réagir à notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr.
Et aujourd'hui, nous recevons Béatrice. Bonjour Béatrice.
Bonjour Béatrice.
Bonjour tout le monde.
Et Béatrice est tatophile. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, ben, elle va nous expliquer. Vas-y Béatrice.
Alors oui, en effet, je suis une tatophile, c'est-à-dire que je suis une personne qui a un intérêt prononcé pour les cimetières, les tombes et l'art funéraire. Donc j'ai démarré il y a longtemps en fait, plaisir de me balader dans les cimetières. Ça a démarré il y a très très longtemps au cimetière de Wembley en Angleterre. Où là c'était un cimetière un petit peu vieillissant avec des tombes pas très bien entretenues. Et puis je sais pas, ça a dû éveiller chez moi un intérêt. Et puis venant habiter à Angers, j'ai découvert le cimetière de l'Est, qui est un cimetière que je conseille à tout le monde de visiter parce que c'est assez riche, à la fois en art funéraire, en tout ce qui est aussi la faune, la flore. Voilà, c'est ça que je trouve très joli dans ce cimetière.
Je crois qu'il est surnommé d'ailleurs le Père Lachaise Angevin.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Et avant de commencer, je voulais savoir, est-ce que tu connaissais qu'on pouvait être passionné par les cimetières, être tatophile?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
J'ai découvert ça assez récemment parce que voilà, en fait, à chaque fois que je vais dans un cimetière, je me demandais qu'est-ce que je ressens, je me posais cette question. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que il y avait aussi des gens qui étaient passionnés, il y avait des gens aussi qui appréciaient et qui étaient c'est un métier, puisque c'est un métier pas tafophile, mais il y a le métier de conservateur des cimetières. Donc assez récemment, c'est en fait pendant le confinement, j'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle La vie au cimetière de Benoît Gallo, qui est donc le conservateur du cimetière du Père de la Chaise. Et son compte m'a tout de suite attiré l'œil et j'ai compris que, j'étais pas seule.
Non, mais c'est super intéressant. Parce que moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps dans un livre. Bah, tu vas peut-être nous en parler, que tu connais sûrement. Je savais pas qu'on pouvait vivre dans un cimetière et être passionné.
Et donc en fait, ce conservateur, alors pour être conservateur, c'est en fait un vrai métier, il faut avoir un diplôme d'État.
D'accord.
Donc oui, on peut pas être conservateur comme ça. En fait, c'est un diplôme en fait qu'on
Alors quand tu parles de conservateur, ça veut dire s'occuper du cimetière?
En
oui,
fait,
c'est ça.
Ouais, c'est-à-dire que le Père Lachaise, c'est vraiment un cimetière très très particulier parce que c'est le cimetière qui est quasiment en référence dans le monde entier. Souvent, en fait, c'est un cimetière qui est vraiment immense. Si vous connaissez pas, je vous incite à aller le visiter, le parcourir de long en large et en travers, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir. Et c'est un cimetière qui est très 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 intéressant pour plein de choses en fait. Il y a vraiment que ce soit dans l'art funéraire, l'histoire du lieu, toutes les tombes des gens connus qu'on peut y voir, et puis aussi cette faune. Et que justement Benoît Gallo a pris en photo, en l'occurrence pendant le confinement, il a découvert des renardeaux. Oui. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Il a commencé, il était passionné de photos aussi, et en se baladant pendant le confinement, et bien il s'est rendu compte qu'il y avait des renards d'eau dans le cimetière. Et donc voilà, il a fait le livre donc qui s'appelle La vie secrète d'un cimetière. Je vais vous lire un tout petit passage justement parce qu'en fait ça représente moi ce que je ressens quand je vais dans un cimetière. Voilà ce qu'il dit. J'aime les cimetières parce que j'ai acquis la conviction que loin d'être des endroits tristes et ou glauques, la plupart sont au contraire des lieux apaisants aux richesses insoupçonnées. Voilà, et ça c'est exactement ce que je ressens quand je vais dans un cimetière. À la fois il y a le côté apaisant, il y a le côté un lieu de méditation, et puis ça raconte plein de choses en fait. Ça raconte l'histoire du village ou de la ville. Ça raconte il y a plein de symboliques qui sont intéressantes. Et puis il y a des noms aussi, des noms qu'on peut retrouver régulièrement sur les tombes. Donc voilà, il y a une histoire aussi. Enfin, c'est assez drôle aussi parfois de constater qu'il y a des épitaphes, donc oui. ces phrases là qui sont mises sur les tombes pour parler du mort. Voilà, il y en a des très connus d'ailleurs qui sont mises sur les tombes. Mais ça, c'est très drôle de constater ça et de lire ça.
Et si je peux me permettre, est-ce que tu veux partager quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup justement dans ce cimetière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Ou est-ce qu'il y a un point commun dans chaque cimetière justement que tu retrouves et que tu aimes bien? Ou...
Alors moi je parlerai le cimetière de l'Est en l'occurrence et au Père Lachaise c'est pareil parce que le Père Lachaise est vraiment très très riche, mais si on parle du local, le cimetière de l'Est, ce que j'aime beaucoup c'est à la fois ces caveaux, ces petites chapelles, et puis aussi les arbres qu'il y a. Il y a vraiment tout un mélange. Moi j'ai ce qui m'attire par là, c'est comme je suis attirée par l'histoire de l'art. Eh bien, ça regroupe un peu ce plaisir-là de voir des beaux monuments, des choses qui sont dans un lieu comme ça, avec sans voiture, sans bruit extérieur polluant. On peut entendre des oiseaux, on peut y voir des écureuils parfois. Voilà, c'est ça mon plaisir, c'est aussi ce calme, et puis cette de savoir que ben oui, ce sont quand même des gens qui sont morts, qui sont là et qui ont eu leur propre histoire. Et puis bah des fois je pars un petit peu, je vagabonde un peu dans mes pensées en regardant les noms, les prénoms aussi. C'est très chouette de et puis il y a différentes formes de pierres tombales, donc les formes aussi peuvent dire beaucoup de la personne. Il y a des dessins, les gens, leurs survivants en fait, les gens qui viennent les voir, les visiter, posent parfois des objets un petit peu bizarroïdes, mais c'est qui leur sont propres. Donc et puis il y a des carrés aussi, il y a des carrés qui peuvent être malheureusement des enfants qui sont morts, et donc on peut observer des objets très particuliers. Il y a aussi c'est le cimetière qui est près du château Margaux en Gironde. Il y a beaucoup de tombes de gens du voyage, par exemple. Les tombes des gens du voyage sont aussi très particulières. Oui. Ils ont un rapport à la mort qui est particulier. Donc voilà, ils protègent leur mort. Enfin voilà, c'est une observation en fait aussi qui est chouette à faire, et puis que j'essaie de partager. Alors bon, au gré de mes vacances avec mes enfants, souvent on s'arrêtait dans des cimetières, et elles aiment ça aussi en fait. Elles le font quand on est ensemble, elles le font sans rechigner. Et puis on peut y voir des chats, des oiseaux. Donc c'est ça qui est très chouette.
Mais je voulais rebondir tout à l'heure, tu parlais, enfin, dans l'extrait de Benoît Gallo, qui parle, enfin, qui dit que c'est pas un lieu triste et glauque. Mais j'ai commencé le livre que je conseille d'ailleurs de Delphine Horviller, qui s'appelle Vivre avec nos morts. Et j'ai appris en hébreu, alors je vous dirai pas le terme en hébreu parce que je l'ai pas retenu, mais le cimetière, c'est la maison des vivants.
Oui. Donc, tout à fait.
C'est bien que c'est pas un lieu, voilà. Les gens sont morts, mais c'est quand même vivant. Il y a quand même de la vie dans ces lieux-là.
Exactement. Et puis tout dépend de la religion, en fait, aussi. De chacun. Ouais, oui, tout à fait. C'est ça qui est très intéressant, justement. C'est de constater que finalement, on est, chacun a un regard, différent, sur les lieux de culte, en fait, ouais.
Et au cimetière de l'Est, ce qui me frappe aussi, c'est que ça m'avait fait ça au cimetière de l'Ouest également, quand j'avais visité, c'est qu'il y a la route autour. Au cimetière de l'Est, il y a même le train, et il y a quand même du passage autour, enfin maintenant, à moi, et c'est calme. C'est ce qui est frappant, en fait, dans ce lieu, c'est que malgré les bruits alentours, ça reste, et au cimetière de l'Ouest, c'est pareil, ça m'avait... et c'est calme.
Oui,
c'est très apaisant.
Oui, mais c'est pas. En fait, on pourrait croire que c'est très minéral parce que il y a que des tombes et c'est de la. Voilà, c'est. Mais il y a beaucoup de verdure et d'autant plus maintenant depuis quelques années puisqu'ils ont obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires aussi. Ah oui. Donc voilà, il y a aussi ça. Ils font attention à préserver aussi la faune
et
la flore.
C'est vrai que voilà, Béatrice est une amie à moi et donc elle m'avait parlé qu'elle visite les cimetières. Je trouvais ça un peu curieux, mais bon. Et grâce à toi, je vois les cimetières autrement. Et c'est vrai que cet été, je me suis arrêtée en Normandie sur la tombe de Jacques Prévert.
Ah moi aussi. J'ai visité la maison de Jacques Prévert
et t'es allée après. Oui. Et ta vue, elle est super belle.
C'est magnifique.
Tout fleuri avec un arbre. Et c'est vrai que tu dis, c'est gai.
C'est gai.
Même j'ai pensé à la mienne, je me suis dit, moi j'aimerais bien avoir une tombe comme ça. Non mais c'est vrai, c'était vivant.
Tout à fait.
C'est ça.
Et puis tu voyais qu'on prenait soin de lui encore, tu vois, grâce aux fleurs.
Ouais. Bah, tu parles de la Normandie, ce qui est très chouette aussi en Normandie, c'est tous les cimetières militaires. Justement, parce que là, on voit aussi la différence entre le cimetière américain, le cimetière anglais, le cimetière canadien. C'est aussi un lieu, enfin ce sont des lieux qui peuvent être différents aussi, qui sont pas entretenus de la même façon. C'est très intéressant aussi, ouais.
Et en revenant sur ta passion tatophile, est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes
Non, c'est vrai que j'ai pas non.
Ouais, ça pourrait être intéressant d'un côté. Et t'aimerais, on a l'antenne,
pourquoi pas.
Ouvrir justement sur...
Pourquoi pas, ce serait...
Donc s'il y a des gens qui écoutent l'émission, j'espère quand même, je pourrais recevoir des mails si je souhaite te rencontrer.
Ouais.
C'est vrai que c'est...
Mais il se peut que je sois tatophile moi aussi, finalement. J'avais pas de nom, je me trouvais bizarre, en fait, d'être passionnée par les cimetières. C'est quand même bizarre, cette envie d'aller me promener dans les cimetières, mais finalement,
je ne savais pas qu'il y avait un nom.
Non, je ne savais pas qu'il y avait un nom. Mais moi aussi, j'adore.
Ouais, mais c'est un endroit. Enfin, c'est tellement. Ça paraît incongru parce que c'est lié à la mort, donc ça paraît incongru.
Oui,
mais tout dépend comment on voit les choses.
La vie.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Enfin, la vie, c'est la mort, et la mort, c'est la vie.
Tout à fait.
C'est plutôt, et puis bon, il y a un pan justement autour des cimetières. Il y a tellement de métiers qui tournent autour de la mort que finalement c'est intéressant aussi.
Et ben justement, on va faire une pause musicale et tu as choisi Jim Morrison. Il n'y a pas de hasard, sûrement. Dis-nous pourquoi.
Ben en fait, Jim Morrison est enterré au Père Lachaise et c'est une tombe qui est évidemment visitée énormément. Et puis, il y a des petites histoires autour de Jim Morrison au Père Lachaise et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler après la musique.
D'accord, très bien. Bon, à tout de suite.
Back in those days, everything was simpler and more confused. One summer night, Going to the pier, I ran into two young girls. The blonde was called Freedom, the dark one Enterprise. We talked and they told me the story. Now listen to this. I'll tell you about Texas radio and the big beat. Soft, driven, slow and mad like some new language. Reaching your head with the cold, sudden fury of a divine messenger. Let me tell you about heartache and the loss of God. Wandering, wandering in hopeless night. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stoned.
Et nous reprenons avec Béatrice, donc qui est tatophile. Justement, tu voulais rebondir, tu nous as dit qu'après notre petite pause en musique avec Jim Morrison, tu voulais rajouter quelque chose.
Oui, je disais que c'était la tombe qui était le plus visitée et Benoît Gallo, là le conservateur du Père Lachaise, avait dans son bureau lorsqu'il est arrivé une espèce de buste. Et je vous lis le passage justement quand il en parle dans son livre. C'est sur le plan de la décoration, mon nouvel espace de travail avait été assez sobre, mais il comportait deux éléments singuliers. Le premier était un buste de Jim Morrison, installé dans la niche murale qui me faisait face. Impossible d'échapper au défunt le plus célèbre du cimetière, y compris au sein de mon propre bureau. Ce buste aurait été placé sur la tombe du chanteur au début des années 1990. À défaut d'autorisation, en bonne et due forme de la part de sa famille, mon prédécesseur de l'époque l'aurait fait retirer pour l'entreposer là, en attendant que son auteur vienne le récupérer. Ce buste n'est pas un chef-d'œuvre. Son défaut majeur réside dans le fait qu'il ne ressemble pas vraiment à Jim Morrison, mais plutôt à Val Kilmer, l'acteur qui jouait le rôle du chanteur dans le film d'Oliver Stone, The Doors. Il m'a toutefois accompagné pendant mes premières années, conférant un petit côté rock'n'roll à ce bureau austère. Mais il ne résista pas au portrait de Morrison que le street artiste Christian Guémy, alias C215, me donna un jour. Peint au pochoir sur un ancien panneau Père Lachaise de la RATP, ce portrait saisissant de réalisme donna un subit coup de vieux à l'œuvre en plâtre que je décidai de remiser dans la réserve. Il n'y avait pas de place pour deux Jim. Voilà, c'était le petit clin d'œil à Jim Morrison concernant la musique choisie.
Ouais, c'est très très bien. C'est sympa d'être passionné comme ça et d'avoir des livres, de se retrouver dans des livres.
Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est vraiment là, Benoît Gallo, vraiment, je vous incite à aller voir son compte Instagram parce que il est à la fois drôle, il est à la fois c'est un compte sur lequel on apprend beaucoup de choses. Il a fait il y a quelques mois de ça le résumé de toutes les professions qu'il y avait autour du cimetière, toutes les professions qui existent autour de la mort. Et j'ai trouvé ça passionnant, et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais tafophile.
D'accord. Alors, tu peux nous partager justement tous les métiers qui peuvent, certains métiers, si tu en as.
Alors là, je les ai, j'ai pas,
d'accord.
J'ai
pas. Toi, la, peut-être, j'ai pas tu en connais liste. Peut-être.
Alors, il y a le thanatopracteur, voilà. Par exemple, qui est. Alors, je voulais en parler.
Ouais, vas-y.
Voilà, je voulais juste parce que je suis aussi un autre compte d'une qui s'appelle Tana. Nanou, ça c'est le nom du compte Instagram, et c'est une femme qui est thanatopracteur. Alors, pour les personnes qui ne savent pas en quoi consiste, voilà, c'est une personne en fait qui fait le soin des défunts, des soins de conservation et qui intervient sur le corps des défunts à la demande des familles.
D'accord.
Voilà. Donc ça permet d'avoir un défunt parfois qui est maquillé pour parce que ben soit le lors de son décès tragique a eu un accident et donc ben voilà, il y a une reconstruction un petit peu, enfin voilà, et le thanatopracteur c'est pareil, c'est un métier qui a un diplôme d'État. Et donc, si ça vous intéresse, je vous incite à aller sur le site du gouvernement, santé.gouv.fr, et voilà, pour apprendre le détail de cette formation.
Très bien. Et quand tu dis c'est à la demande des familles, c'est-à-dire que c'est pas obligé ? Il y a pas une
certaines familles qui refusent.
D'accord. On peut faire juste une toilette en fait, ouais, défunt.
C'est ça.
D'accord.
Là, c'est un soin de conservation pour que le défunt soit, enfin, bien conservé, comme son nom l'indique.
Oui, puis tout dépend en fait aussi du temps de entre la mort et puis l'enterrement, la crémation. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une semaine et que la famille souhaite qu'il soit dans un aux pompes funèbres, enfin visitable, une chambre funéraire, eh bien, faut qu'il soit présentable. Et donc,
D'accord, très bien.
Voilà.
Vas-y, qu'est-ce que tu voulais est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ou
Tout à l'heure tu parlais du livre aussi,
oui.
Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, ouais. Et donc tu me disais
ça,
que
j'ai découvert parce que j'avais jamais lu un livre sur ce thème. Bon, il est dur quand même comme
livre.
Ah mais
génial.
Et en même temps, je me suis dit ah ouais, bah le début, parce qu'après c'est vrai qu'après je connais son histoire, donc c'est différent. Mais au début, je me suis dit, moi, beaucoup de métiers. Moi, j'aime pas tous les métiers, mais celui-ci, il m'a passionnée. Mm-hmm. Je me suis dit tiens, j'avais jamais pensé.
Bah, elle rend passionnant parce que il y a aussi ce côté, justement, elle léguait le lieu, le cimetière dans lequel elle travaille par des fleurs, et puis elle participe.
C'est ça. Et en même temps, elle partage aussi les personnes. Comment je pourrais te dire ça? Parce qu'il y a des jeunes qui
vont dans le cimetière.
Ouais, et puis les jeunes qui vont dans le cimetière le soir, qui se font peur, tu sais, des mythes.
Oui.
Tu sais qu'attendent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a.
Ça, j'adore.
Ouais, il y a une vie aussi. Il y a une jeunesse qui fait des
expériences.
Des expériences, tout à fait, dans un cimetière. Mais oui, parce que il y a aussi tout un mythe par rapport au film, enfin, le cinéma. Il y a beaucoup de films qui se passent dans des cimetières, en l'occurrence sont des films d'horreur, mais pas que, et c'est vrai que
et justement elles se déguisent à un moment donné pour leur faire peur.
Il y a même un clip très connu, le clip de Michael Jackson, des morts vivants, enfin il y a tout l'imaginaire autour de la mort, des esprits, des fantômes, tout ça, c'est bien sûr, c'est entretenu par le cinéma aussi, par la littérature. Enfin, il y a plein de choses qui sont.
Mais c'est sûr qu'elle est pas là par hasard non plus.
Non, c'est ça.
C'est ça.
Exactement.
Aussi. Donc que je sais pas comment. Benoît Gallo, lui, il est là pas par rapport à une personne.
En fait, il s'avère que dans son histoire, c'est très drôle parce que donc il habite le cimetière avec sa famille, donc avec sa femme et ses quatre enfants. Et lui vient de ses parents étaient dans le funéraire déjà. Donc
il
choque absolument pas. Sa femme travaillait, je crois, dans la restauration, et elle a arrêté pour travailler justement dans le funéraire aussi, parce que en fait, ayant rencontré son mari, enfin voilà, c'est tout un cheminement, et puis visiblement la famille, ça se passe très bien, et même les enfants sont donc ils ont fait leur premier pas dans le cimetière, voilà, et puis ils ont pu jouer, faire du vélo quand ils font des anniversaires. C'est très drôle.
Ouais. Est-ce que tu as d'autres livres justement à nous conseiller pour des personnes qui voudraient découvrir ou je sais pas?
Là non, pas. Enfin voilà, j'ai ces deux-là, pas d'autres en tête.
Toi tu en as?
Moi comme je disais tout à l'heure, Delphine.
C'est Béatrice.
Orvilla.
Delphine Horviller.
Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais.
Qui est rabbine,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça, rabbine. Ouais. Donc elle fait des... Alors, j'en suis qu'au début du livre, hein,
Il est passionnant.
Oui, très passionnant. Et ça s'appelle Vivre avec nos morts. Petit traité de consolation. Mm.
Donc elle aussi, elle habite dans le cimetière, ça
non.
se passe comment?
Non. Et si vous voulez, je peux vous lire le quatrième de couverture. Alors, en tant que rabbine, du coup, on dit ça. Mm. Delphine Horviller est confrontée chaque jour au mystère de la mort. Pour accompagner les mourants et réconforter les endeuillés, elle tente de transmuer l'inéluctable, d'y trouver du sens. Je me tiens aux côtés de femmes et d'hommes qui, au moment charnière de leur vie, ont besoin de récits, écrit-elle. Ce petit traité de consolation tresse étroitement trois fils, le conte, l'exégèse et la confession. La narration d'une existence interrompue, pardon, la manière de donner une signification à cette mort à travers les textes de la tradition et l'évocation d'une blessure intime ou la remémoration d'un souvenir enfoui. Voilà, puis après, voilà. Bon, je vous passe, mais il a l'air passionnant.
Je l'ai lu, il l'est effectivement.
Ouais. Ah oui, tu l'as lu aussi.
Mais en fait, il y a plein de choses concernant la mort, finalement, et ça reste malheureusement en France un sujet tabou. Mais peut-être que ça commence à se...
Parce qu'on ne connaît pas non plus.
Oui, peut-être. Mais quand on parle de mort... Pour avoir travaillé un petit peu dans les pompes funèbres, tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est un milieu hyper sombre, hyper glauque, comme les... mais pas du tout, en fait. Mm. C'est passionnant, hein. C'est vraiment un domaine qui est passionnant, c'est de l'humain.
On assiste aussi quand on travaille dans les pompes funèbres, quand on est dans des milieux funéraires, on assiste les personnes qui sont endeuillées.
Oui.
Donc effectivement, elles sont tristes, elles sont elles ont perdu leurs proches et forcément c'est triste, quoi.
Mais
c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand on n'est pas proche du défunt, on peut se permettre justement de les assister, oui. de les aider, de leur sourire aussi, parce que on peut se permettre de sourire dans un cimetière, on peut rire dans un cimetière, on peut
frapper. Mais du bonheur.
Exactement.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de venir, parce que dans 30 minutes de bonheur, c'est vrai qu'au début on se dit.
Quel est le lien?
Quel est le lien?
Ouais, tout à fait.
Ils sont en discutant. C'est vrai que quand j'ai lu le livre, je me suis dit, en fin de compte, 30 minutes de bonheur, le bonheur, en fin de compte, il peut être partout. Tout dépend comment on le voit.
C'est ça.
Mmh. Est-ce que vous avez vu, je sais plus si c'est en Écosse ou en Irlande, en fait, c'est un monsieur qui a organisé ses obsèques. Et au moment, donc, où il est mis, le cercueil est mis en terre et refermé, on entend taper. Et on entend, il y a une voix qui dit « Eh oh !» Enfin, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un. Et en fait, il avait anticipé, donc il avait enregistré.
Il y avait une bande sonore.
Et alors, au départ, tout le monde se regarde un peu. C'était avec la complicité d'un de ses fils, je crois. Et finalement, ça tourne en éclat de rire général. Mais il faudrait retrouver cette vidéo. On la trouve sur YouTube. C'est exceptionnel. Mmh.
C'est une mise en scène. Ouais. Il a mis en scène son enterrement.
Oui, tu l'as vu.
J'en ai entendu parler effectivement.
Génial.
C'est ça. C'est-à-dire que faut aussi finalement ça. En tant que être humain, si on n'a pas peur de la mort, ou même si on a peur de la mort, on peut aussi anticiper et puis s'y préparer justement et l'amener différemment pour que la famille accepte, quoi.
Oui, complètement.
Ce départ.
C'est un sujet passionnant.
C'était passionnant.
Trop court.
Ça y est, 30 minutes sont passées déjà. Et c'est vrai que c'était, merci beaucoup Béatrice de nous avoir
fait
découvrir ce que c'était tatophile. Franchement, c'est très intéressant. Très belle découverte. Et on se dit à dans 15 jours, Karine.
À bientôt.
Et puis on vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.